Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici quelques semaines, je suis resté en arrêt devant cette dépêche d'agence datée du 13 octobre 2005. Le 33e album des aventures d'Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête, a été vendu 400 000 exemplaires en France vendredi, au premier jour de sa sortie dans les librairies, ont annoncé à l'AFP les éditions Albert René. C'est énorme, s'est félicité une responsable de la maison d'édition. L'album est sorti vendredi simultanément dans 27 pays, avec un tirage de 8 millions d'exemplaires, dont 3 179 000 pour la France. Par-delà tous les amusements du monde, ce succès vraiment prodigieux est forcément pour un historien un aiguillon puissant, car il nous conduit tout droit vers le domaine passionnant des représentations, des stéréotypes, des clichés qu'une nation, la nôtre en l'occurrence, forge de siècle en siècle à propos d'elle-même, et aussi de tous ceux, 27 traductions simultanées, de tous ceux que les autres cultivent sans relâche à son propos. J'attendais depuis longtemps l'occasion d'inviter au micro de Concordance des temps Christian Goudineau, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire des Antiquités nationales. D'abord, naturellement, parce qu'il a profondément renouvelé au profit du public intéressé la connaissance que nous pouvons avoir de la Gaule, mais aussi parce qu'il a constamment témoigné du goût qu'il avait de réfléchir aux extraordinaires évolutions de l'idée que la France s'est faite de la Gaule au long des âges, avant d'aboutir au triomphe d'Astérix. Et enfin, parce qu'il jette sur cette histoire dans l'histoire un regard que nourrit tout à la fois une compétence hors de pair et un humour que visiblement il n'a jamais cru incompatible avec la pertinence et la profondeur de son propos.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Les légions romaines, sous la conduite de César, ont déferlé sur la Gaule. Après une longue lutte, les vaillants Gaulois ont été contraints de s'avouer vaincus. Le grand Vercingétorix lui-même dépose les armes aux pieds de César.
Oui !
Ou plus exactement, sur les pieds de César.
Ah, c'est drôle, ah oui, ah, c'est drôle. Si c'est ça, la plaisanterie gauloise.
La paix romaine s'est donc installée en Gaule, troublée par quelques attaques de Germains, très vite repoussées.
Allez, Ousta ! Non, mais qui
oh,
va...
Oh, pompon, d'accord, on s'en va.
Mais attention, les... Attention, on reviendra.
Cependant, en pleine armorique, non loin de la mer, un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Ils n'auront pas nourri des lots de mer, et malgré tout, nous resterons Gaulois.
On a longtemps prétendu que les premières écoles avaient été fondées par Charlemagne. C'est faux. En réalité, les enfants gaulois apprenaient en classe certains éléments de base.
Nos ancêtres, les Celtes, étaient grands et blonds. Ils portaient des casques scellés.
Passe-moi le sel.
Ramolix, tu viendras en retenue jeudi. Ça t'apprendra à faire rire tes camarades.
Christian Goudineau, bonjour.
Bonjour.
J'ai voulu naturellement introduire notre conversation avec Astérix. J'ai le sentiment que vous êtes celui qui a introduit l'astérixologie au Collège de France, non ?
Oh, c'est peut-être aller trop loin. Mais franchement, Astérix, c'est un personnage. Puis c'est aussi une œuvre que j'aime beaucoup.
Il a pris une grande
place. J'aimais beaucoup.
Grande place dans votre vie. Pourquoi c'est
non,
passé ?
Non, grande place dans ma vie, c'est peut-être trop dire. Non, j'aimais beaucoup Astérix à l'époque de Goscinny, d'Erzo, parce que c'était un regard distancié, c'était l'utilisation, je dirais, des mythes du 19e et de la première partie du 20e pour faire rire sur les Français d'aujourd'hui. Ou sur nos voisins, d'ailleurs les Belges, les Helvètes, c'est-à-dire ça n'était pas pris du tout au premier degré. Or, j'ai l'impression que depuis la mort de Goscinny, malheureusement, le message n'est plus du tout le même, et Ça me plaît moins.
Vous savez que Erckmann et Chatrian ont fini par se disputer et que les frères Goncourt ont été également séparés par la mort. Alors si vous voulez bien, puisque vous êtes très sévère, pour, vous n'êtes pas tout à fait le seul probablement pour les dernières moutures des aventures d'Astérix, nous resterons au temps de Goscinny. Vous l'avez rencontré, Goscinny, vous le connaissiez?
Oh, je l'ai vu une fois, très, très brièvement, et c'est lui, d'ailleurs, qui m'avait semblé d'une érudition ébouriffante, qui m'avait tenu ses propos. À savoir, je me moque des Français d'aujourd'hui, en prenant référence dans les Gaulois mythiques qu'ont créés le 19e et le début du 20e siècle, les Gaulois des manuels scolaires.
Une gaieté enracinée sur une profonde connaissance de réalité et de la réalité des choses et des clichés qui les déforment.
Tout à fait. Il était parfaitement conscient que c'était des clichés. Et il utilisait les clichés, bon, pour lutter contre de nouveaux clichés.
Vous avez publié, il y a quelques années, un livre qui s'appelle Partout Tatis, Que reste-t-il de la Gaule, où vous jouez de façon très stimulante entre ces stéréotypes qu'on nous a enseignés et que nous continuons plus ou moins de charrier dans nos têtes et ce qu'on a pu apprendre plus récemment, non seulement par une interprétation nouvelle des textes, mais par l'archéologie qui a fait également beaucoup de progrès.
Exactement. Exactement. Il y a 30 ans, on n'aurait pas pu sans doute revenir aussi bien sur les clichés, mais nous avons eu, disons depuis une génération et demie, un certain nombre d'avancées dans l'archéologie française qui ont permis de renouveler complètement notre regard. En deux mots, il y a d'abord eu l'archéologie aérienne, c'est-à-dire cette observation depuis le ciel de ce qu'il y a sous terre.
Avec un pionnier
qui était Roger Agache. Et effectivement, on a pu se rendre compte que les campagnes gauloises que l'on disait inexistantes, rappelez-vous le cliché, la petite hutte, enfin le petit village entouré de forêt, que tout ça était complètement faux. Ensuite, il y a eu l'archéologie de sauvetage sur les grands travaux comme les autoroutes, les TGV, etc.
Ce qu'on appelle l'archéologie de sauvetage, c'est quand les archéologues sont autorisés à intervenir pendant un assez bref moment.
Avant les grands travaux sont entamés. Voilà, c'est ça, avant qu'on les entame. Lorsque nous avons le plan, l'implantation, etc. Et donc, là encore, on a fait venir au jour un nombre incalculable de vestiges qui correspondent à cette époque. Et on s'est rendu compte que le sol de la France, on va parler sans doute plus largement du monde celtique, mais que le sol de la France était couvert notamment d'exploitations agricoles, qu'il était mis en culture dès le 3e siècle au moins, avant Jésus-Christ.
Donc nous allons en parler, mais c'est un contraste violent effectivement avec tout ce dont Goscinny s'amuse, c'est-à-dire cette mythologie, on peut rappeler les traits principaux de cette Gaule rêvée, diffusée par la bande dessinée. Ce sont des gens qui vivent essentiellement de la pêche et de la chasse.
Absolument. Or, on sait très bien que depuis le néolithique, c'est-à-dire 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est plus du tout ça que les habitants de l'Europe occidentale, sans parler évidemment du Moyen-Orient, puisque tout cela se diffuse depuis l'Est, eh bien, sont devenus des sédentaires, des agriculteurs, des pasteurs. Et donc, le cliché des Gaulois vivant de la chasse et de la pêche, bien, ça ne tient pas la route.
Ils ne sont pas frais et poissons d'un côté, et puis de l'autre, le sanglier.
Oui. Alors, cela dit, il faut comprendre comment ça s'est créé. C'est-à-dire, l'image de ces Gaulois-là, elle est née au début du 19e siècle. Quand on cherchait à se construire une nation, on voulait un sol, le plus anciennement possible, habité par des ancêtres les plus lointains possibles, et on n'avait aucune idée de la préhistoire.
On était d'autant plus libre de batifoler dans le passé et d'y projeter ses propres fantasmes.
Et n'oublions pas qu'à l'époque, on considérait que le monde avait été créé, enfin plutôt l'homme avait été créé et installé sur ce monde, eh bien à peu près 4000 ans avant la naissance du Christ. Donc les Gaulois, c'était au fond des gens qui avaient connu les mammouths, qui avaient été des chasseurs-pêcheurs. Mais évidemment, la connaissance historique ayant progressé, on sait maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, faire la différence entre les hommes de la préhistoire, le néolithique, les Celtes ne sont pas là, et les Gaulois eux-mêmes, qui arrivent 4500 ans ou 4000 ans plus tard.
En revanche, au début...
Mais ça passe pas. On reste toujours dans ces clichés.
Parce qu'au début du 19e siècle, on pouvait encore croire, scientifiquement parlant, que c'était vraiment un monde autosuffisant, l'idéal de la communauté qui vit sur elle-même, de l'île déserte.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais On y reviendra peut-être, c'est surtout l'idée de constitution d'une nation qui a beaucoup compté, et la conception d'une Gaule un petit peu repliée, retranchée sur elle-même, avait beaucoup de force. Et ce que j'ajouterais, parce que je ne suis pas allé jusqu'au terme de ma démonstration...
Je vous promets de ne plus vous interrompre.
Mais non, interrompez-moi, au contraire, tant que vous voulez. Il y avait une troisième discipline qui a beaucoup compté, c'est l'archéologie sous-marine. Où, lorsque, il y a à peu près 30 ans ou 35 ans, on a commencé à fouiller des épaves sur nos côtes méditerranéennes, et, bon, Provence, Languedoc, et maintenant d'ailleurs un petit peu sur l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il y avait un grand nombre d'épaves qui avaient sombré. Or, si on fait le décompte de ces épaves, il y en a je ne sais pas combien, 600, 700, quelque chose comme ça, proportionnellement, la quantité la plus forte correspond aux années 150-50 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, les années Astérix, si j'ose dire. Hein. Et que contenaient ces épaves qui avaient coulé? Du vin qui venait d'Italie. Et en quantité phénoménale. Peut-être 1 million d'amphores par an. Autrement dit, il y avait un commerce international qui était très très fécond. Les Italiens envoyaient leur vin vers la Gaule, et forcément, les Gaulois renvoyaient autre chose.
Une grande zone de libre-échange.
Mais vous n'avez pas tort de dire cela, parce que on s'est aperçu d'un phénomène tout à fait étonnant, qui est un phénomène numismatique, à savoir qu'à partir de 120 avant Jésus-Christ, donc 70 ans avant la guerre des Gaules, un certain nombre de peuples ont abandonné leur monnayage traditionnel, qui était un monnayage d'or, qui portait un certain nombre, une iconographie particulière, avec des dieux, avec des visages plus ou moins tarabiscotés. Ils abandonnent donc leur étalon d'or et leur iconographie pour adopter un étalon d'argent qui est aligné sur la monnaie italienne et qui va reproduire des thèmes iconographiques italiens.
Passage à l'euro.
Ben, un petit peu. Mais vous vous rendez compte de ce que ça suppose? Parce que on a bien vu, nous, toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour adopter l'euro. Les difficultés, bon, d'ordre politique. Ça suppose des ententes profondes. Il y a aussi toutes sortes de problèmes économiques et techniques.
Qu'on est loin de ce monde cloisonné qu'on nous expliquait. Avec... Restons quand même un instant sur cette mythologie qui se dessine au début du... au 18e et au début du 19e siècle, avec ces Gaulois qui, en somme, festoient sous la lune, dans une forêt épaisse, repliés sur eux-mêmes, avec toute la fraîcheur et la spontanéité d'une relation à la nature qui n'est pas polluée par les débuts de la civilisation. C'est ça qui a été charrié d'abord par le fameux faux qu'ont été les fameux poèmes d'Ossian.
Justement, il faut distinguer la nation, la création, disons, du début du 19e siècle, et un phénomène qui s'est passé une
intérieure.
Cinquantaine, bon, peut-être 60, 70 ans plus tôt, et qui est la renaissance plus des Celtes que des Gaulois. Hein, même si, on y reviendra, c'est rigoureusement la même chose.
D'ailleurs, dans le fragment que nous avons entendu d'Astérix, les enfants psalmodiaient en classe nos ancêtres les Celtes.
Ouais, oui, tout à fait. Voilà. Pour être clair, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, ou à peu près, personne ne s'est intéressé aux Gaulois, du moins dans l'aristocratie. Bon, il y avait quelques personnages originaux qui sont allés voir quelques textes. Bon, mais pour l'essentiel, la monarchie française se réclamait beaucoup plus de Jules César ou de l'empereur Auguste que des Gaulois. Les Gaulois, ils n'avaient rien à faire, on ne connaissait pas Vercingétorix. Alors, en réalité, comment sont-ils revenus sur le devant de la scène? Eh bien, c'est par la découverte du mégalithisme. Et lorsque
C'est-à-dire...
on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes monuments comme Stonehenge, ou comme chez nous les grands champs de Karnak et autres, ou les dolmens.
Lithos en grec, qui veut dire la pierre, voilà, grande pierre.
Donc les dolmens, les menhirs, pour être clair. Et il y a eu des personnages qu'on appelle les antiquaires au XVIIe ou XVIIIe siècle qui ont émis, notamment en Angleterre, la théorie que ces énormes ensembles étaient destinés au culte druidique.
Ah, voilà les druides.
Voilà, ils sont allés repêcher donc dans des auteurs anciens, César, Diodore de Sicile, bien d'autres, des passages qui disaient que les druides officiers sous la lune,
avec le gui,
cueillait le gui,
l'arrivée du gui,
Pline, etc. Et les Celtes donc sont revenus sous cette forme et très vite se sont développés. D'ailleurs, vous le savez, en Angleterre, des écoles druidiques, hein, des espèces de confréries qui continue d'ailleurs à durer. Aujourd'hui, nous avons encore des confréries druidiques, aussi bien en France qu'en Angleterre.
Et par exemple, elle coupe toujours le gui?
Alors, je ne sais pas ce que le gui, mais ils défilent dans les rues de Londres en robe blanche pour leur cérémonie. Ils vont à Stonehenge, ou encore dans la forêt de Brocéliande, en France, vous avez des druides qui marient des Japonais. Il paraît qu'il y a des agences de voyage spécialisées. Bon, donc, ça, c'est des choses quand même relativement étonnantes. Le prince Charles est membre... est très très élevé d'une de ses confréries druidiques.
Bon, on n'est pas tout à fait jusqu'aux Gaulois, mais enfin on s'approche. Oui.
Oui. Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure à Ossian.
Ah oui, racontez-nous ça. C'est une histoire extraordinaire. Alors, parce que c'est un faux qui a eu un énorme succès, comme toujours, un faux éclair sur les raisons pour lesquelles on l'a cru vrai.
Tout à fait. Donc c'est un Écossais qui s'appelle Macpherson, qui un jour publie en Angleterre, on est aux alentours de 1765, hein, on est avant la Révolution française. Donc il publie des poèmes. Et ces poèmes qu'il traduit en langue anglaise, il les a recueillis, nous dit-il, en se promenant en Écosse, dans des landes, et c'est de vieux paysans, de vieux bergers, qui depuis des siècles et des siècles, n'est-ce pas, par tradition orale, se transmettaient, eh bien, ses récits et ses vers.
Il serait contenté de tendre l'oreille, en somme.
Voilà, il tend l'oreille, il se fait expliquer, il traduit. Et il attribue ses poèmes à un certain Ossian, qui aurait été une sorte de barde, de poète, mais en même temps de guerrier du IIIe siècle après Jésus-Christ.
Ça marche magnifique.
Et ça a un succès extraordinaire. Pourquoi ? Parce que Macpherson, avec un génie incontestable, se coule, au fond, dans le moule de ce que nous appelons le pré-romantisme.
Est-ce que je peux vous lire quelques vers de Ossian pour donner à entendre à nos auditeurs ce que c'était ? Que fais-tu loin de nous quand l'aube blanchissante efface à nos yeux attristés ton sourire charmant et tes molles clartés ? Vas-tu, comme Ossian, plaintive, gémissante, dans l'asile de la douleur, ensevelir ta beauté languissante ? Extrait des poèmes d'Ossian.
Hein, pas mal, hein ? Pas mal. Et alors, ça a mis l'Europe entière sous le charme. Les poèmes d'Ossian ont été traduits en je ne sais combien de langues, et c'était un des livres de chevet, par exemple, de Napoléon.
Allons bon.
Oui. Alors évidemment, le sang qui coulait sur les autels druidiques, parce qu'on voit ça de temps en temps, ne devait pas beaucoup le gêner. Mais imaginez toute une génération, qui est la génération des pré-romantiques, qui a été profondément impressionné par ces descriptions de landes désertes, battues par la mer, d'arbres qui s'écroulent, et puis les grands rochers druidiques,
la peinture aussi
extraordinaire.
Ça, et puis Chateaubriand, parce que dans les martyrs,
alors justement,
il y a l'admirable portrait de la druidesse Velléda.
Voilà, Chateaubriand a été sans doute très influencé par Ossian, et dans le génie du christianisme, nous avons les martyrs, et ce livre... Bien, finalement, est tout à fait dans la lignée d'Ossian, puisqu'il nous montre, à la même époque, IIIe siècle après Jésus-Christ, un jeune gouverneur romain qui est en charge de l'Armorique, qui est installé à Condat.
Condat qui est aujourd'hui
Rennes. Mmh. Hein, et qui se rend compte très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des mouvements, des rébellions, et il apprend qu'une jeune femme... qui est la fille d'un grand druide, quitte en secret la citadelle la nuit. Un jour, il va la suivre, et il traverse derrière elle un lac, arrive au milieu d'une forêt, et puis il y a une clairière, et là va se produire un sacrifice humain, ou plutôt, par un prodige dû au ciel, le sacrifice humain ne va pas jusqu'au bout.
Classique,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeune d'or tombe amoureux fou de la jeune druidesse. La suite, lisez Les Martyrs.
Eh bien, voilà une bonne bande-annonce pour qu'on retrouve Les Martyrs en livre de poche, si ça existe.
Oui, tout à fait.
Christian Goudineau, il y a un autre aspect que dont vous témoignez, qui nous éloigne de cette époque très proche, effectivement, des mythologies d'Astérix, c'est que il existe des agglomérations. On peut probablement parler de ville dans cette Gaule que Astérix était supposé animer à partir de son tout petit village. En particulier, vous avez attiré l'attention sur Bibracte. Bibracte, et pour introduire vos réflexions sur cette ville située au cœur de la France d'aujourd'hui, au cœur de la Gaule, écoutons François Mitterrand dans un discours de septembre 1985, au moment
où il fait proclamer Bibracte grand site national et européen.
Bibracte fait partie de notre passé, très bien. Elle n'est pas tout notre passé, c'est vrai. Les Gaulois font partie de nos ancêtres, c'est entendu. Nous en avons bien d'autres, nul n'en doute. Eh bien, voyons ce qui nous rapproche, connaissons ce qui nous différencie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est aussi une invitation à regarder cet horizon et bien au-delà de ses limites. Croyez-moi, il n'y a pas de simplification réductrice de la cohérence profonde d'un pays comme le nôtre. Ce que nous devons chercher pour l'essentiel, ce sont les chemins de la cohésion nationale. Tel est le sens profond de la République elle-même. Tel est, du moins je le crois de toutes mes forces, telle est la vocation de la France.
François Mitterrand et les Gaulois, alors. Alors, Christian Goudillon.
Ah ben, pour moi, c'est un souvenir, parce que je participais à cette journée fameuse.
J'ai trouvé un témoin.
Ah, vous avez un témoin. J'ai même, pendant le déjeuner, été assis en face de François Mitterrand.
Alors, vous pouvez compléter le
président du conseil scientifique de Bibracte.
Ah, oui.
Ah, c'est une histoire extraordinaire. Parce que depuis longtemps, nous étions un certain nombre d'archéologues qui pensions qu'il fallait fouiller ce site. Ou plutôt, il fallait le refouiller. Parce que, au XIXe siècle, Napoléon III avait fait engager des campagnes pour savoir si le Mont Beuvray était bien l'endroit où se trouvait la fameuse Bibracte. Alors, Bibracte est fameuse parce que César la cite plusieurs fois. Il dit que c'est la capitale d'un peuple qui s'appelle le peuple éduin, qui est le plus ancien allié de Rome. Depuis au moins un siècle ou un siècle et demi. Et César est venu plusieurs fois à Bibracte, et c'est là qu'après Alésia, il a écrit ses mémoires. La guerre des Gaules, enfin ses mémoires, disons ses commentaires sur la guerre des Gaules.
Oui, on sait qu'il l'a écrit là, oui.
On sait qu'il l'a écrit, c'est lui-même qui le dit.
Ça ajoute à la magie du lieu.
Bien sûr, ça ajoute à la magie du lieu. Et donc au XIXe siècle, il y avait des fouilles qui avaient été entreprises, qui ont duré une quarantaine d'années à peu près, mais selon, disons, les méthodes de l'époque. Ensuite, le principal fouilleur est mort à la guerre de 14, hein, et Bibracte a été enrésiné, comme beaucoup d'autres sites, et c'était une immense forêt. Or, nous étions persuadés qu'il y avait là, dans cette grande capitale celtique, eh bien, à reprendre de grandes entreprises.
Et vous êtes tombé sur un chef de l'État qui avait été l'élu de la région.
Et alors, tout à fait par hasard, car moi j'étais à Aix-en-Provence à l'époque où on a essayé de relancer le projet, et j'avais proposé ça, et il s'est trouvé effectivement que le président Mitterrand, enfin celui qui allait devenir le président Mitterrand, était un élu de Château-Chinon, hein, qui est donc la porte à côté que Bibracte a trouvé pratiquement sur son canton. Donc à partir de ça a démarré la nouvelle entreprise, et lui-même est venu faire un appel à l'Europe, c'est-à-dire aux équipes archéologiques internationales, pour se joindre aux équipes françaises pour fouiller Bibracte.
Et là, nous sommes au cœur de ce qui nous passionne ici, c'est-à-dire ce dialogue que l'action publique, les dirigeants peuvent entretenir avec un passé réel ou modifié.
Tout à fait.
Au service finalement de la science et de l'archéologie, c'est dans le meilleur des cas.
Absolument. Alors, François Mitterrand a fait un très grand discours, donc, que certains archéologues ont plus ou moins inspiré, mais de
temps... Mais à qui pensez-vous?
Quelqu'un qui n'est pas très loin de vous.
Pudeur. Mais c'est vous qui avez écrit les passages qu'on a entendus, là?
Non, pas du tout, car le président s'évadait souvent de ses discours et ajoutait de lui-même.
Frustration pour les nègres.
Ce qui est très bien.
Ou satisfaction?
Non, satisfaction. Et donc, le président de la République, ce jour-là, a exprimé toutes sortes de sentiments qui montrent combien, des lieux comme cela, où l'insurrection de 52 avant Jésus-Christ et l'union de la Gaule comptaient encore dans l'esprit de ceux qui avaient, comme lui, mais aussi comme moi encore, lu les manuels de la quatrième République.
Le même fils des petits lavistes de la troisième.
Tout à fait. Mais alors, donc, les fouilles ont repris, grâce à lui, Et depuis 20 ans maintenant, eh bien on a pu mettre au jour, disons, une partie importante d'une énorme agglomération qui fait 220 hectares et qui n'est pas la seule en Gaule.
Toute sous la forêt d'aujourd'hui.
Oui, bien sûr, en enlevant la forêt, enfin en coupant quelques arbres.
Elle vivait comment? C'était une cité qui, à nos yeux, nous qui connaissons un peu Rome antique, et est-ce que c'était très comparable ou très différent?
Non, très différent. Très différent. On ne va pas chercher, disons, un reflet de Bibracte, enfin un reflet de Rome à Bibracte, plus exactement. C'est une cité qui n'est pas organisée de manière très quadrillée. Cela dit, il faut voir, c'est sur une montagne qui est bosselée, qui est irrégulière. Mais il y a une activité économique vraiment extraordinaire, des ateliers métallurgiques, il y a des traces de commerce, des vestiges commerciaux, disons, innombrables. Vous avez des maisons. Alors, bien sûr, qui ne sont pas les grandes maisons romaines, il va falloir attendre quelques années avant qu'elles s'y implantent, mais Bibracte n'est qu'un maillon d'une chaîne. C'est-à-dire, on s'est aperçu, mais ça remonte à la fin du XIXe siècle, avec un grand archéologue qui s'appelait Joseph Deschlette, on s'est aperçu que ce type d'établissement, avec des remparts, avec, comme je le disais, des artisanats, avec des lieux publics, eh bien, se retrouvait aussi bien en Autriche, en Tchéquie, en Hongrie.
Ah oui, alors ça évidemment, ça pose le problème de la différence de nos ancêtres par rapport aux autres, oui. Ben, ou la raboter, cette différence.
Complètement. C'est-à-dire, il y avait un monde qui s'étendait depuis l'Atlantique jusqu'à, disons, l'équivalent de Budapest aujourd'hui, qui était organisé, non pas du tout en état, mais selon un nombre que je ne saurais déterminer, mais peut-être une centaine ou une cent cinquantaine de peuples qui avaient eux-mêmes leur territoire.
C'est une peau de léopard.
Gouvernaient.
C'est
même.
C'est une peau de léopard, comme on dirait.
Une peau de léopard, si vous voulez. Mmh. Chaque peuple pouvant avoir l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui un ou deux départements, peut-être trois ou quatre pour les plus grands. Okay. Et chacun étant autonome, de temps en temps pouvant s'allier à d'autres, de temps en temps, au contraire, pouvant cogner sur les voisins. Mais l'idée d'un État, l'idée d'une Gaule, ça n'existe pas.
Donc, on est loin d'Astérix et de son village à cause de l'ampleur de cette civilisation qui est presque urbaine, mais l'idée quand même d'une division en petits groupes humains n'est pas absolument fausse.
Non, non, la division, elle est là, elle est bien là.
Et d'ailleurs, dans la mythologie, François Mitterrand, comme d'autres, insiste sur les ferments de division hérités des Gaulois qu'il faudrait surmonter, comme le fait d'ailleurs un autre président de la République. Voilà un autre extrait, une autre archive, à savoir Jacques Chirac, vous allez l'entendre, le 14 juillet 2003. Mais après l'évocation d'une manifestation du 13 mai précédent, on est au moment des manifestations contre la réforme des retraites.
Malgré la pluie, ils sont donc venus en nombre aujourd'hui. Pour l'occasion, certains s'étaient même déguisés, à l'image de Sylvie, fonctionnaire territoriale, qui portait ce matin un casque gaulois.
On est déguisé en irréductible fonctionnaire qui résiste à Raffarin et Fillon, et à Chirac.
La France a toujours eu un esprit un peu gaulois. C'est l'une de ses forces, c'est aussi l'une de ses faiblesses. Mais dans une situation comme celle que nous connaissons, la seule réponse, c'est la poursuite de l'adaptation. Les Français ne peuvent pas se laisser dépasser par le monde tel qu'il évolue.
Donc chez le chef de l'État actuel, l'idée non seulement de la division, mais que finalement être trop gaulois, ce serait être retardataire.
Je sais pas très bien ce qu'il veut dire, esprit gaulois. C'est sans doute oui.
Ça te remettra tout.
Les bagarreurs.
Bien, alors nous allons voir comment on l'a évoqué à travers les siècles, en considérant d'abord les stéréotypes qui étaient répandus chez les Grecs et chez les Romains à propos des Gaulois. Les Gaulois, ils étaient un peuple sauvage, un peuple barbare, un peuple cruel. Il faut dire qu'ils avaient envahi, comme on sait, et la Grèce et Rome.
Alors, il faut savoir de quoi on parle là.
S'il vous plaît.
Parce que lorsque on dit Gaulois ou Celtes, pour l'époque qui précède la guerre des Gaules, il faut bien se rendre compte que on évoque une partie extrêmement importante de l'Europe. C'est-à-dire, aux yeux des Grecs comme aux yeux des Gaulois, les Celtes, c'était le nom que les Grecs leur donnaient, ou les Gaulois, c'était le nom que les Romains leur donnaient, occupaient un territoire extrêmement vaste. Et qui allait jusqu'aux côtes septentrionales de l'Europe, jusqu'au Danemark, au Jutland. Donc ils allaient depuis l'Espagne, le midi de la France actuelle, à un certain moment le nord de l'Italie, et donc l'essentiel de l'Europe centrale et septentrionale. C'est ça qu'on appelle soit les Celtes, soit les Gaulois. Alors, c'est un monde qui est très étrange, et que les Romains, enfin plutôt les Grecs d'abord et les Romains, vont apprendre à connaître peu à peu.
À leurs dépens aussi.
Et surtout à leurs dépens.
Parce que quand on relit Tite-Live, quand on lit Tite-Live, on se rappelle l'épisode de Brennus, l'épisode Les Oies du Capitole, et c'est rappelez-nous ça.
Ah ben écoutez, c'est la grande invasion, si on voit ça du point de vue des Romains, ou la grande migration, si on voit ça du point de vue des Gaulois, qui se produit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc des hordes de Gaulois, diront les Romains, déferlent jusqu'à Rome, mettent le siège, on est aux alentours de 390, hein, quelque chose comme ça, et puis il faut payer rançon. Et un siècle plus tard, les mêmes Gaulois, entre guillemets, ou plutôt là, on dit des Celtes ou des Galates, c'est la même chose, se précipitent sur la Grèce,
à Delphes.
Vont prendre et piller, sacrilège inouï, le sanctuaire, vont même s'installer un petit royaume au nord et en créer un au cœur de l'Asie mineure. Alors là, effectivement, vous imaginez bien que le regard ne devient plus un regard ethnographique. Hein, on est en contact direct. On vient de subir des pertes considérables. Et n'oubliez pas que le nord de l'Italie sera terre gauloise. Toujours.
C'est pourquoi les Romains ont été reconnaissants aux oies du Capitole lorsqu'elles ont, par leur cri, prévenu de l'arrivée une autre fois des Gaulois. Mais l'occasion où les Gaulois ont gagné avec le fameux Brennus, c'est aussi une partie de nos manuels scolaires, puisqu'on voit Brennus qui, pesant la rançon d'or qu'on lui doit, jette son glaive.
Parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé des poids qui sont fous. Et alors, vous n'êtes pas content, tenez, il ajoute son épée, et puis il faut payer.
Et une petite phrase qui est restée célèbre.
Malheur aux vaincus,
victif. Oui, les petites phrases ne datent pas de la télévision.
Bon alors, donc, il faut bien insister sur ce fait que lorsqu'on nous parle des Gaulois ou des Celtes, il s'agit d'un ensemble extrêmement vaste, qui n'a aucun rapport avec ce que nous, ultérieurement, nous appelons la Gaule.
Alors, 10 siècles plus tard, parce que je vais faire un saut, faute de temps, Christian Goudineau, lorsqu'on commence à reparler des Gaulois, véritablement, dans la France, qui existe désormais, on trouve une évolution du regard qui conduit presque à un effet de décolonisation, on peut dire, de l'impérialisme romain classique. Ce sont les écrits de Agnus de Viterbe et de Jean Lemaire.
Alors, ce sont des gens, évidemment, qui arrivent en pleine Renaissance, ou tout à fait au début de la Renaissance, et ce sont les premiers qui vont redécouvrir les textes, et notamment les textes grecs, et qui se rendent compte de ce que je viens de rappeler, à savoir que ces Celtes, ou ces Galates, ou ces Gaulois, eh bien, ont été des gens tout à fait extraordinaires, qui, à un certain moment, ont vaincu Rome et ont vaincu les Grecs. Alors, Agnus de Viterbe, c'est un personnage tout à fait curieux.
Un moine italien,
qui raconte, dans un manuscrit, que un jour, ou un soir, où il était sur le port de Gênes, il a fait la rencontre de Grecs, enfin de gens qui venaient, on ne sait pas trop, qui avaient avec eux un coffre avec des manuscrits.
C'est l'époque où l'humanisme retrouve des manuscrits anciens.
Voilà. Et donc, Agnus de Viterbe se serait fait confier ou aurait acheté les manuscrits. Et les manuscrits en question, c'était des fragments d'auteurs dont l'importance était considérable. Alors, il y avait notamment le fameux Manéthon, celui qui, vous savez, a fait la chronologie des pharaons égyptiens. Bon, et puis, il y en avait plein d'autres. Et Agnus va publier ses œuvres. Et il se trouve que ses œuvres donnaient des généalogies. Des généalogies qui remontaient.
C'était trop beau.
À Noé.
Jusqu'à Noé.
On voit Noé partageant le monde entre ses différents fils. Et l'un de ses fils va avoir tout l'Occident. Et le fils de Noé a un fils, qui a un fils, qui a un fils, qui a un fils, et au bout de la généalogie, ou à un certain moment, on va trouver des noms qui sont des noms celtes ou gaulois. Alors qu'ils sont des noms comme druides, par exemple, hein, on vient d'où ça vient, et le mot celte, et là, et même à un certain moment, on tombera sur Vercingétorix et d'autres avec... Alors, la leçon était laquelle? Eh bien, que les Celtes et les Gaulois remontaient au plus haut, et remontaient bien avant l'époque de la guerre de Troie, qui aurait donné à la naissance ultérieure... Aîné, Iule, Romulus et Rémus, des Romains.
Magnifique dit, renversement patriotique.
Un renversement incroyable, incroyable. Et
lui, c'est que c'était un faux.
Oui, mais on s'en est aperçu que... Enfin, certains ont douté dès le début. Par exemple, Rabelais, qui est un personnage d'une intuition extraordinaire, a haussé les épaules, et même dans Pantagruel, a imaginé une généalogie... comment dire, rigolote, pour se moquer d'Agnus de Viterbe et de Jean le Maire de Belge. Mais
qui était Jean le Maire de Belge, c'est quelqu'un dans le même sens.
Jean le Maire de Belge a été un des grands poètes donc du XVIe siècle, et lui a écrit justement tout à fait dans la lignée d'Agnus de Viterbe. Et c'est lui qui a diffusé à la cour de François Ier, notamment, ce genre d'idée, à savoir, sire, vous êtes plus ancien que les Italiens, et vous avez un devoir, puisque vous descendez du fils de Noé qui avait en charge d'organiser l'Europe occidentale, vous avez un devoir de régler tout ça.
Encore un faux dont la vérité historique est patente.
Incroyable.
Qui a un grand rôle. Évidemment, c'était fait pour caresser l'oreille des souverains.
Bien sûr.
Parce qu'on renversait vraiment les choses et le regard. Alors, avançons, il faut le faire, avançons jusqu'au 19e siècle.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après, il y a eu les guerres de religion.
Oui.
Et puis la monarchie absolue, alors là, les Gaulois tombent absolument à la trappe.
Donc on arrive au 19e siècle où vraiment les Gaulois reprennent une importance considérable, et c'est en fait le moment où se forge l'idée moderne de la nation. Alors, même si vous préférez Goscinny à Uderzo, je vais vous faire quand même écouter le second, qui en 96 évoquait la manière dont il a conçu avec son co-auteur, dont il a conçu Astérix, dans les années 60.
Certains journalistes ont cru que nous faisions l'apologie du général de Gaulle et du gaullisme. Et on a voulu expliquer d'ailleurs, quand le succès est apparu, hein, non pas en 59, mais quand le succès est apparu un peu plus tard, dans les années 60, on a dit, oui, le succès d'Astérix vient du fait que d'abord on chatouille la fibre nationaliste française, le côté cocardier, et puis, la Gaulle, de Gaulle, voyez-vous, on oubliait qu'il y avait un aile d'un côté et deux ailes de l'autre. Et alors que le général de Gaulle n'avait pas besoin d'Astérix pour faire sa promotion. D'ailleurs, il nous a terriblement vexé quand il a dit un jour que le seul personnage qui lui faisait de l'ombre sur le plan de comment dirais-je, de la personnalité, c'était Tintin. Il a dit ça à Malraux, paraît-il, oui.
La formule que reprend Malraux dans les chaînes qu'on abat, c'est exactement, il raconte que de Gaulle lui a dit ça, mon seul rival international, c'est Tintin.
Ah, international.
Il faut dire que Tintin est antérieur de au moins 30 à 40 ans par rapport à Astérix. Je n'ai jamais lu que De Gaulle ait été un lecteur assidu d'Astérix.
Je ne sais pas.
Ah, point.
Demandons à Malraux.
Point aveugle de l'histoire qu'il faudra éclairer.
Dans la vallée de Josaphat.
Quoi qu'il en soit, Uderzo évoque cette idée de fierté patriotique et nationale des années 60. Fierté retrouvée sous le général de Gaulle, mais ça nous ramène à ce 19e siècle.
Tout à fait.
19e siècle. La nation et les Gaulois, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, peut-être même un petit peu avant. Parce que l'important, c'est que après avoir été éliminé pratiquement de la politique et de l'idéologie au XVIIe et XVIIIe siècle, ou jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, avec la Révolution, la Gaule et les Gaulois ressortent. Alors, ils ressortent de deux manières. D'abord, on relie César. César, bien, c'est lui qui a inventé la Gaule. Il faut bien le dire.
Parce que les révolutionnaires sont passionnés d'antiquité romaine.
Exactement. César, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la Gaule s'arrête au Rhin. C'est-à-dire, il a fait, comme beaucoup de conquérants, la partie qu'il isole dans un tout prend le nom du tout. Hein, ou prend en tout cas un nom. Hein, ceci est le Maroc. ceci est l'Indochine, ceci, bon, et le Congo. Dieu sait les problèmes que ça pose par ici.
Vous évoquez effectivement les frontières imposées par le colonisateur en Afrique noire, par les Français ou les Anglais. Ça vous rappelle, ça vous paraît mériter un parallèle avec César regardant la Gaule.
Rigoureusement, César, quand il est parti, a dit voilà, la Gaule, c'est ça. Hein, c'est la phrase que tout le monde a apprise quand on était en culotte courte pour le premier cours de latin.
Presque tout le monde.
Gallia, Estonis, Divisa, Intres Partes, etc. Et puis il y a.
J'aime assez qu'on parle latin à ce micro.
Voilà, il y a la frontière du Rhin. Bon, or pendant disons l'époque de la monarchie absolue, on a vu cette idée renaître plusieurs fois. Par exemple, il y a un document qui est extraordinaire, qui est le testament de Richelieu, qui est un apocryphe probablement écrit par les jésuites.
Encore un faux, décidément.
Encore un faux, oui.
Quelle émission.
Et le testament disait, le but de mon ministère a été de rendre à la Gaule les frontières que lui a destinées la nature, de rendre aux Gaulois un roi gaulois, de confondre la Gaule avec la France, et partout où fut l'ancienne Gaule, d'y rétablir un nouvel.
C'est le thème des frontières naturelles qui apparaît.
Alors, c'est-à-dire la frontière historique, celle de César, va se confondre avec la frontière naturelle et à la Révolution et au XIXe siècle, c'est ça qui importe. Danton, le 31 janvier 1793. 31. Le 21, il s'était passé quelque chose, comme vous vous rappelez. C'est la guillotine. Et Danton dit, « Je dis que c'est en vain qu'on veut faire craindre de donner trop d'étendue à la République. Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins de l'horizon. » Du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bordes de notre République et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre. Et ce fut l'annexion, hein, juste après, de la Belgique et d'une partie des Pays-Bas.
Et en fait, Jules César était penché sur l'épaule de Danton. Parce que ce que vous nous montrez très bien, c'est que c'est d'une certaine façon César qui a constitué la Gaule telle que nous l'avons ensuite apprise et servie. Je crois que c'est un point qui est tout à fait intéressant à souligner parce qu'il est méconnu.
Mais bien sûr.
La Gaule n'a existé que dans le regard du conquérant qui lui-même était animé par des motivations quoi, personnelles, politiques.
Écoutez, je pense qu'il avait considéré avoir conquis quelque chose de relativement homogène. Et c'est d'ailleurs le discours qu'il tient lui-même dans la guerre des Gaules.
Mais c'est lui qui crée l'homogénéité ou bien il considère qu'elle est homogène cette Gaule avant qu'il arrive?
C'est lui qui l'a créé. Hein. Je pense que c'est un discours en grande partie idéologique, puisqu'il dit à l'ouest du Rhin, il y a les Gaulois qui au fond sont pas tellement différents de nous.
Donc la division,
ils sont assimilables.
C'est de la com, comme on dit.
Et de l'autre côté,
c'est de la com.
C'est ces horribles sauvages que sont les Germains. Et le texte de César, on va se le renvoyer de part et d'autre du Rhin durant le 19e siècle.
D'ailleurs, on le retrouve dans...
Quand vous êtes des sauvages.
On le retrouve dans les lettres des poilus de 14-18. C'est rentré profondément dans les sensibilités françaises et probablement allemandes de l'autre côté.
Oui, mais parce que ça a décidé du sort de l'histoire. N'oubliez pas que Rome n'a jamais conquis la Germanie.
D'ailleurs,
on considérait que c'était une espèce de limite.
Il y a un professeur d'histoire médiévale qui s'appelait Pfister, à la Sorbonne, qui pendant la guerre 14-18 s'écrit dans un grand mouvement, il suffit de voir la statue de Vercingétorix d'un côté et celle d'Arminius de l'autre, qui est un peu le Vercingétorix allemand, le chef, pour voir que d'un côté il y a un homme déjà pré-civilisé et de l'autre un sauvage absolu. Donc César, d'une certaine façon, constitue un peu artificiellement, par rapport à cette Gaule très divisée que vous évoquiez, constitue l'image et peut-être le fantasme d'une Gaule qui est faite pour nourrir les élans du nationalisme ou du patriotisme du 19e siècle.
Et donc, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, l'idée des frontières naturelles qui se développent au 17e et surtout au 18e siècle va très bien coller avec l'image que César a donnée, la frontière du Rhin, un grand fleuve. Hein ? L'idée, c'est que chaque nation est individualisée par des grands accidents de la nature, qui sont des montagnes, qui sont de grands fleuves. Donc nous, on a les Pyrénées, on a les Alpes, on a le Rhin, et on a, d'autre part, l'océan. Bon, voilà, on a un tout. Et d'autre part, nous avons ses ancêtres, les Gaulois.
Merci à eux.
Merci César. Nous avons ses ancêtres, nous avons tout. Et en plus, nous avons la chance, puisque ce qui change en réalité, c'est que d'une histoire dynastique, à ce moment-là, on passe à une histoire de la nation, et qu'il faut bien remplacer les rois dont on parlait les uns après les autres par des figures. Donc on va chercher des héros.
Donc il y a une opposition entre ceux qui prennent Clovis, c'est du côté de la contre-révolution, comme le point de départ de la France chrétienne, et ceux qui vont reculer et chercher vers Saint-Gétorix.
Ben, pas tellement, pas tellement.
Pas tellement, je croyais.
Pas tellement. Enfin, au plus exactement, ça dépend sous quel angle on voit la chose. C'est-à-dire, remonter le plus loin possible, tout le monde est d'accord. Bon. L'idée qu'on se fait de la nation, c'est évidemment soit la nation, une nation qui est de type républicain, soit une nation qu'on souhaiterait rattacher à la royauté.
On a retrouvé cette position il y a quelques années au moment de la commémoration de l'anniversaire du baptême de Clovis.
Tout à fait. Oui, c'est vrai.
Quand la France commence-t-elle?
Quand la France commence-t-elle?
Non, j'y tiens tout de même malgré votre réaction. Non, mais
je veux dire, les oppositions à la figure, par exemple, de Vercingétorix, elles se cristallisent plutôt un peu plus tard. Alors, bien sûr, au début, nous avons l'opposition entre la nation qui commence à Clovis et qui a sa lignée de roi légitime, et puis les gens qui, aux alentours de 1820-1830, disent non, la nation, c'est pas ça. La nation, c'est le sol, les ancêtres, qui sont les Gaulois et pas les Francs, et d'autre part, de grands héros comme Jeanne d'Arc, etc., et Vercingétorix qui arrive. Alors, j'ajoute simplement une chose que nous avons passé un peu rapidement peut-être, à savoir que sous la Révolution, déjà, l'abbé Sieyès, par exemple, et quelques autres, avaient lancé la théorie comme quoi la noblesse était constituée des descendants des Francs. C'est par le droit de conquête que tous ces gens-là, y compris le roi, avaient reçu leur privilège.
Dévaloriser les envahisseurs.
Bon. Et donc, ces gens-là, ils avaient conquis quel peuple? Il y avait bien des gens. Alors, en remontant dans l'histoire, on dit, bah oui, il y avait des gallo-romains, enfin un mélange de romains et de gaulois. D'où l'idée que la noblesse, et le clergé d'ailleurs, c'étaient les descendants des Francs, et que, en revanche, le peuple, c'était les Gaulois. Et c'est le peuple qui va être, avec la nation, remis, bien sûr, sur le devant de la scène à partir de 1820-1830.
Et Napoléon III, sous le Second Empire, va jouer un rôle essentiel pour faire ressurgir notamment Vercingétorix. Mais avant d'y arriver, une dernière fois, je voudrais vous faire entendre un ramassé des clichés concernant les Gaulois. C'est une chanson de Risset Barrier qui s'appelle « La Java des Gaulois » et qui remonte à 1958.
Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledou. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis plongeaient sur la nourriture. Au petit Gilles Péric, qui était rachitique, au chetel les épluchures. Poilu, barbu, le druide à noble tête, arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi, c'était la loi des Gaulois. Quand il guerroyait, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur après dit, ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire, Astic allait faire de lance. Vercingétorix, un dur incaïd, étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César, arriva sur son char. Il leur a dit, veni, veni, vidi, vici. On se tira les tifs, on se tapa sur le pif, mais on vit bientôt les légions. Des Romains pompettes qu'aimaient la piquette se coller dans la vase de soie. C'est la Gaule manque de bras, dit un chef gaulois, il faut retrousser nos manches. Ils firent des maisons, ils firent même les ponts, sauf le samedi et le dimanche. Poilu, barbu, il guinchait le samedi, au bal sur pilotis. Flânant, crânant, on causait entre poteaux en regardant les Gauloises jouer les pompadours. Et la Gaule en dimanche chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour.
Christian Goudineau, nous sommes là en 1958, juste avant qu'apparaisse qu'apparaissent Astérix.
Oui,
avec ça, le succès qu'on sait.
Je connaissais pas du tout, ça m'a beaucoup amusé. C'est vraiment l'enfilage des poncifs les uns après les autres, mais sous une forme humoristique. Bon.
Ce sont ceux précisément dont Goscinny va habilement tirer profit pour s'en moquer et oui, organiser l'humour de son
oui, à peu
de
près.
Son œuvre, beaucoup en tout cas.
C'est plus subtil quand même chez Goscinny que dans cette chanson.
Naturellement, je voulais pas naturellement rabaisser.
Mais c'est une bonne chanson, je sais pas, pour chantier de fouilles. On s'amuserait bien.
Il y a un tableau de la fin du 19e siècle qui est dû au peintre Lionel Royer et qui est tout à fait étonnant parce que on y voit Vercingétorix. Nous l'avons souvent découvert, reproduit dans nos manuels. On voit Vercingétorix à cheval qui a réussi à franchir les lignes romaines et qui vient se rendre devant César dans un geste ultime de défi. Il est à cheval. César a l'air un peu troublé, presque un peu désorienté, tout ça est complètement invraisemblable.
Oh, complètement, oui, bien sûr, non. On n'aurait jamais vu dans tout le cours de l'histoire une reddition où le vaincu est plus fort que le vainqueur.
Oui. Jetant ses armes.
Oui. Puis imaginez, Alésia, la grande bataille vient de se dérouler la veille. Donc les Gaulois ont été vaincus, l'armée de secours est repartie, dépenaillée, il y a les cavaliers romains qui la poursuivent, et pendant ce temps-là, Vercingétorix est toujours enfermé puisqu'il n'a pas réussi sa sortie. Qu'est-ce qui devait se passer dans le camp romain? Il devait y avoir, sur le parapet des ouvrages, des soldats qui guettaient. On avait encore peur que Vercingétorix puisse sortir. Alors vous imaginez le chef gaulois qui s'habille comme ça, de sa parure éclatante, avec ses armes, qui sort par la porte, qui va franchir les lignes, lesquelles lignes d'ailleurs ont des fossés, des pièges, etc. Bon, le malheureux, il aurait pas fait 30 mètres avant d'être exterminé à coups de javelot. De je ne sais quoi.
Tant qu'il a naturellement des moustaches gauloises magnifiques, importantes dans l'histoire du système pileux, bien sûr, mais rêvé plus que réel, ils étaient glabres, ces gens, d'après ce qu'on peut savoir.
Bah, écoutez, on ne peut pas véritablement être certain. Ce que l'on sait, c'est que les statues qui les représentent à cette époque, et surtout, ce qui est plus important encore, les pièces de monnaie, eh bien, nous montrent des visages qui sont glabres. Donc, l'aristocratie devait avoir adopté en grande partie les modes italiennes ou romaines, c'est-à-dire se raser. Maintenant, peut-être que les paysans, eux, avaient encore des moustaches, allez savoir.
Alors, Napoléon III décide, enfin, se passionne pour Jules César. Il lance une histoire de Jules César et il se passionne pour Vercingétorix. Et il va en faire quelque chose comme un intermédiaire entre une capacité de résistance et d'autre part, par sa défaite même, il le fait signifier que l'arrivée des Romains a été, en somme, féconde pour la Gaule. C'est quelque chose comme ça, c'est l'ambiguïté.
Oui, vous avez très bien défini l'ambiguïté. Bon, Napoléon III, qu'est-ce qu'il voulait en écrivant l'histoire de Jules César? Il voulait démontrer, il nous l'écrit d'ailleurs, il le dit dans sa préface, il voulait démontrer que le césarisme faisait le bonheur des peuples. Hein, suivez mon regard, Alexandre, Jules César et puis Napoléon. Hein. Bon. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement sérieux, parce qu'il aurait pu très bien se contenter de l'époque où Jules César était à la tête de Rome, après la guerre des Gaules, et donc des différentes réformes qu'il avait pu engager. Non, il le prend depuis sa naissance, et il va essayer d'aller jusqu'au bout. Ce qu'il n'arrivera pas à faire, d'ailleurs, il y aura Sedan qui l'interrompra. Et pour son deuxième livre, qui est « La guerre des Gaules », eh bien, il engage une très vaste entreprise. Il s'entoure d'une commission avec les gens les plus compétents de l'époque. Et en outre, voulant savoir ce que César veut dire quand il emploie tel terme, il va lancer de grandes enquêtes, qui sont des enquêtes sur le terrain et aussi des enquêtes archéologiques.
C'est le début de la grande archéologie du temps des Gaulois.
Et c'est le début aussi de l'intérêt que vont porter beaucoup de gens à ces affaires. Parce que Napoléon III s'appuie en partie sur les sociétés savantes.
Qui sont en plein essor.
Qui sont toutes jeunes. Hein. Et alors imaginez, vous êtes dans la salle où se réunit la société éduenne.
J'imagine.
Hein, imaginez. Et vous avez votre président qui vient à la tribune et qui dit une lettre de Sa Majesté impériale. Et Sa Majesté impériale, ou de Prosper Mérimée, mais qui fait partie de la commission, vous demande de bien vouloir, dans votre région, aller vérifier les routes qu'a pu emprunter César, où est-ce qu'il y avait des ponts, où pouvait se situer telle localité, etc.
Évidemment, je ne résiste pas à cette auguste injonction. Cette auguste injonction.
Bien sûr. Et donc, le paradoxe, c'est qu'en voulant ressusciter la figure de César, et l'œuvre de César, eh bien, Napoléon III aide à faire ressurgir tout un passé qui est un passé gaulois. Et alors, comme vous le disiez aussi, il se trouve un petit peu ennuyé. Parce que du coup, la figure de Vercingétorix, qui jusqu'alors, bon, était un héros, mais plutôt du type romantique, comme Hernani,
Louis Blas. Romantique en un seul mot, oui.
Oui. Romantique en un seul mot. Eh bien, il en arrive presque à faire concurrence, un petit peu à César. Alors, Napoléon III, instinctivement, semble-t-il, de la sympathie vis-à-vis de ce chef qui a essayé, le premier, de fédérer un certain nombre de peuples, bon, dans cette partie de la Gaule que définira plus tard César. Et néanmoins, par rapport à son propre dessein, il ne peut pas trop le valoriser.
Il grandit, mais il ne faut pas trop qu'il grandisse trop.
Alors, Napoléon III dira, vraiment, c'est un type, finalement, très bien, avec plein de qualités, mais heureusement qu'il a perdu.
Ce sera notre dernier mot, Christian Goudineau. Merci. Vous avez publié en 2002 un livre que je recommande chaleureusement à nos auditeurs qui s'appelle « Partoutatis, que reste-t-il de la Gaule ?» où on trouvera développé largement les thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui. Je voudrais dire, parce que vous êtes vraiment un esprit libre, que vous avez publié également un roman historique qui a eu le prix du roman historique des rendez-vous d'histoire de Blois tout récemment et qui s'appelle « L'enquête de Lucius Valerius Priscus », roman policier dans l'Antiquité.
Oh, c'est à peu près ça, qui se passe un peu plus tard.
Un peu plus tard que notre période. Et puis enfin, vous avez édité en 2000, chez Actes Sud Errance, le dossier Vercingétorix. Je signale aussi que les téléspectateurs ont pu voir récemment 3 films de qualité sur Vercingétorix et son image, qui sont dus à Jérôme Prieur. C'était sur France 5. La semaine prochaine, je recevrai Robert Muchamblé. Et nous parlerons, le dernier mot de Christian Goudineau que vous venez d'entendre. Et nous parlerons du 18e siècle, une sexualité libre, déjà, point d'interrogation.